Mes très chers auditeurs, on m'a demandé de faire encore un peu, si possible, au sujet de cette série « Christ la lumière » jusqu'au Christ du retour de Christ le Messie. Je répète, donc le thème c'est « Christ la lumière » jusqu'au retour de Christ le Messie. Ce serait donc l'étude numéro 7. Je vais essayer, et j'ai prié avant pour que le Seigneur permette que l'Esprit Saint me guide, parce que ce n'est pas évident, et c'est une grande responsabilité. Chers amis, avoir peur au 21e siècle. Oui, tout autour de nous, des millions de gens, je ne parle pas de milliers, mais je devrais peut-être dire quelques milliards de personnes vivent dans la peur. Oui, mais bien sûr que je ne vais pas vous rassurer beaucoup. Si je vous dis que le pire est à venir, das Schlimmste kommt noch, le pire est à venir. Bien sûr que c'est plus facile de vous dire que Dieu vous aime, qu'il aime tout le monde, qu'il va amener la paix très bientôt. C'est pas tout à fait comme ça. Voyez-vous, avec ce siècle où plus personne bientôt a le temps de méditer sur les textes bibliques, comment voulez-vous que les gens puissent savoir? Tout ce qu'ils peuvent savoir, c'est ce qu'ils reçoivent par les journaux et la télévision, la radio. Et je voudrais simplement avertir ceux qui sont assez humbles pour essayer de comprendre et même de croire. Pas croire moi, oh non, ne croyez pas celui qui vous parle, croyez ce que la Sainte Parole vous dit, vous enseigne. J'essaye d'être le porte-parole de cette Sainte Parole. Le professeur Robert Marcus écrivait que on ne peut renoncer à la violence pour arriver à une société plus humaine, surtout dans le tiers-monde. Une affiche de manifestants qui troublèrent le culte de Noël, rendez-vous compte, dans un grand temple de Berlin, lançait ce mot d'ordre « Haïssez vos ennemis, maudissez ceux qui vous offensent, et répondez à la provocation par la violence. » C'est pas tout à fait le thème de Noël de mon enfance. Voyez comme ça a changé. Oh là là, ça a vraiment changé. Une fois de plus, il apparaît clairement que Satan, le grand ennemi de Dieu, est à l'origine d'une telle insurrection. Cependant, beaucoup de ceux qui se laissent attirer et entraîner par ce fanatisme ne discernent pas ce courant de fond et s'enflamment pour des réformes superficielles. Vous vous rappelez de l'affaire de Rudi Dutschke et d'autres harangueurs et d'étudiants qui s'écrient encore aujourd'hui. Il faut abolir le pouvoir de l'homme sur l'homme. Mais cette lutte n'est pas dirigée uniquement contre le régime social. On n'attaque pas seulement tout ce qui est établi, tout ce qui représente l'ordre, y compris la famille prétendue autoritaire. C'est Dieu qu'on attaque avant tout. Car c'est lui qui a créé l'ordre dans la famille, dans les rapports entre jeunes et vieux, entre enfants et parents, entre inférieurs et supérieurs. Et il a donné aux hommes pour leur bien ce merveilleux commandement et ces principes fondamentaux que vous pouvez retrouver dans les Saintes Écritures. Nous sommes donc loin d'approuver une orthodoxie rigide, une façade pieuse, s'attachant à la tradition pour se maintenir et s'affirmer. Si une telle attitude égoïste est attaquée, c'est la faute de la chrétienté qui fournit ainsi des prétextes à la révolution. Mais ce n'est qu'un motif partiel et non la cause véritable de ces révoltes. Les racines en sont bien plus profondes, des symptômes bouleversants et d'innombrables blasphèmes nous le prouvent tous les jours. C'est la révolte universelle contre Dieu. Des revues et des livres chrétiens se posent même cette question. La débâcle actuelle des valeurs anciennes ne constitue-t-elle pas peut-être un départ vers de nouvelles formes de vie? Non, non, non. Ce qui est né de la haine contre Dieu ne saurait construire. Cela entraîne irrésistiblement une dévastation toujours plus grande, car voyez-vous, la haine, elle tue. À chaque nouveau point de départ, nous devons nous demander dans quel esprit cela se fait-il et quel en est le but. Dans le cas présent, c'est clairement l'attaque contre Dieu. Car le matérialisme athée pénètre dans le domaine de la transcendance, ses racines mêmes sont transcendantes. En effet, il n'est pas question ici du monde humain et concret, mais dans cette idéologie nouvelle, il en va de la lutte et de la haine contre qui? Contre Yahvé l'Éternel. Savons-nous ce qui nous attend? Quel a été jusqu'à ce jour le sort réservé aux chrétiens dans bien des pays totalitaires? La persécution des maux sans fin, le martyr par millions, qu'ont-ils vécu en Chine, en Russie et dans bien d'autres pays totalitaires où la révolution permanente a été proclamée? Ce sont été des souffrances encore plus grandes, des tourments sans pareil. Et maintenant, un troisième mouvement surgit qui veut dépasser Marx et Mao. Un mouvement plus impitoyable encore dans sa haine féroce et, on peut dire, dans sa soif de destruction. Ce qui nous attend, eh bien oui, le pire est bel et bien à venir. La Sainte Bible nous l'annonce quand le progrès de l'antichristianisme correspond à l'accomplissement des prophéties bibliques. Cet esprit de révolte contre toute autorité, notez s'il vous plaît, 2 Épître de Pierre, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 3, et 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Cet abandon général de la foi en Dieu, cette prédominance de l'anarchie, ont été prédits par les derniers temps, et pour les derniers temps. Comme les hommes ne se soumettent plus au commandement de Dieu, la conséquence en est l'accroissement des crimes partout que nous constatons aujourd'hui. La révolte universelle n'engendre pas le progrès, mais pas du tout, ni une morale nouvelle, mais bien le ravage, la corruption, l'horreur et des guerres terribles, conséquences de la haine. De la haine. Il n'y a pas que la haine, il y a la rancune. Il y a ceux qui ne peuvent pas tourner la page, qui ressassent toujours les choses du passé contre quelqu'un. Tout cela ne vient nullement de Dieu ni de son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui nous enseigne le pardon, la charité et l'amour. Je crois qu'il dit, si tu n'arrives pas à pardonner, comment veux-tu que moi, ton Sauveur Jésus-Christ, te pardonnera à toi. Oui, l'image de notre époque nous permet d'augmenter ce que, ou plutôt d'augurer, de prédire, de prévoir ce que seront les temps antichrétiens qui engendreront l'Antichrist dont l'apparition est annoncée dans les Saintes Écritures. Celui-ci pourra, sans autre, s'emparer du pouvoir sur l'humanité, puisqu'elle porte déjà en elle son esprit. Personnification de ce qui existe déjà dans la pensée de nos contemporains, l'homme, le but de toute chose, il sera sacré. Dieu, avec ses capacités créatrices, désire que nous nous soumettons à ce qu'il désire pour nous. Donc, on peut dire qu'ils haïront ceux qui sont contre, ils vont haïr le Christ, ainsi que Dieu le Père, et tous ses commandements. Et comme hier, certains, Hitler, Staline, Lénine, Mao, et j'en passe, il sera porté au nu par les foules, celui ou ceux qui vont agir pareil et même pire. L'antichristianisme gagne du terrain, les forces démoniaques sont en marche. Alors que faire? D'abord, racheter le temps, s'il vous plaît. Servir le Seigneur pendant qu'il fait encore jour. Le servir par notre vie toute entière, en parole et en acte. Opposer à cette idolâtrie de l'homme l'adoration et la glorification de Yahvé l'Éternel, d'Adonai, d'El Shaddai. Opposer à la rébellion contre le Seigneur, le témoignage d'une vie dirigée par lui en obéissant à sa volonté, à ses commandements et en nous remettant avec confiance à son amour. Nous opposer, enfin, par la prière, nous opposer par la prière à la puissance croissante de l'antichristianisme, et cela en luttant pour chaque âme qui en est menacée, afin de l'arracher à ses filets. Appeler et avertir en espérant que quelques-uns entendront encore son appel. Prions pour cela, chers amis. Cela demande une décision inébranlable. Tôt ou tard, chacun de nous, moi y compris, surtout, sera placé devant un choix. Si l'on ne se déclare pas de manière catégorique contre les courants révolutionnaires et athées, même contre une théologie qui abandonne la substance de la Sainte Parole de Dieu en faveur d'un engagement politique oppositionnel, alors dis-je, on est déjà, hélas, dans le camp des adversaires de Jésus, car il a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Notez Saint Luc, chapitre 11, verset 23. Chers amis, il ne s'agit donc pas d'une question d'ordre politique, mais bien d'une prise de position vis-à-vis de Dieu vivant, du Dieu vivant. Si le jugement de Dieu et ses saintes exigences ne sont plus respectées, si l'on glorifie ce que l'on considérait comme péché, si la croix de Christ, sa rédemption, je répète, sa rédemption et sa résurrection ne sont plus acceptées comme les piliers de la foi, alors c'est que la décision contre lui a bel et bien été prise. Celui qui ne se range pas du côté de Jésus-Christ, qui n'est pas prêt à des sacrifices, même pas à celui d'être considéré comme réactionnaire, celui-là est contre lui. Il travaille en réalité contre les groupes qui s'opposent à Jésus-Christ et qui l'attaquent. Je ne peux pas déclarer, par exemple, « je crois encore en Dieu, mais je n'admets plus ses commandements et ses ordres ». Oh là là ! Il y en a qui disent cela, même dans la théologie. Or, croire en Dieu, cela veut dire accepter toute son autorité. S'il est vraiment notre maître et nous, ses créatures, nous lui devons obéissance, je lui dois obéissance. Et comment? De même, je ne peux pas dire « je crois en Jésus-Christ, je suis à lui » si je tolère qu'il soit injurié et moqué aujourd'hui comme autrefois, sans prendre fait et sans prendre cause pour lui, sinon je ne suis pas son disciple. Il s'agit aujourd'hui, chers amis, de payer son appartenance à Jésus-Christ, et le prix en est hélas la souffrance, le rejet. On se moque de nous, on dira quel benêt, il est un peu fêlé, ça tourne pas rond dans sa tête, on devrait le mettre en psychiatrie. Il n'est un véritable disciple de l'homme de douleur, je dis bien, il n'est, vous ne pouvez pas être un véritable disciple de l'homme de douleur que celui, je répète, que celui et celle qui accepte de souffrir avec Christ. C'est à ce prix-là seulement que nous pouvons être revêtus de sa force. En ce temps qui précède le règne de l'Antéchrist, préparons-nous donc à souffrir s'il le faut et demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Cependant, n'oublions pas que ce doit être une souffrance à cause vraiment à cause de Jésus-Christ et pas autre chose. Des mots d'une violence jusqu'ici inconnue atteindront tous les hommes. Oui, sachez bien que les cavaliers de l'Apocalypse s'élanceront sur la terre d'où la paix sera totalement retirée. Je répète au cas que vous ayez mal compris. Les cavaliers de l'Apocalypse vont s'élancer sur la terre d'où la paix sera totalement retirée. Tous les papes pourront dire paix, encore paix, et une troisième fois paix. Mais il n'y aura pas de paix. Oh, ça ne vient pas de moi. Vérifiez les Saintes Écritures. Le grand jour de la colère du Seigneur sera venu. Apocalypse 6, verset 17. Il y aura des guerres d'une intensité inouïe dans lesquelles, selon Apocalypse, chapitre 9, verset 18, le tiers des humains périra. Oh, ce ne vient pas de moi. C'est pas moi qui veux vous faire peur. Notez un peu Apocalypse, die Offenbarung, chapitre 9, verset 18, le tiers, der Drittel, der Menschheit, un tiers des humains, périra, comme les hommes de science le prévoient pour la guerre atomique qui nous menace tous. Il y aura tôt ou tard un fêlé dont un super démon incitera dans son âme, dans son esprit, fait lancer la bombe atomique. Et si cela ne suffit pas, lance la bombe à hydrogène, y compris la bombe à neutrons. Et ils comprendront. Seulement, ce qu'il oublie, il comprendra lui aussi trop tard. Car il mourra également. Et ça, le diable ne leur dit pas. Voyez comme c'est subtil tout cela. Oui, le tiers des humains périra comme les hommes de science le prévoient pour la guerre atomique qui nous menace. Les sinistres cavaliers que nous venons de citer annoncent en outre de grandes famines comme il n'y en a jamais eu, et des épidémies que vous et moi n'arrivons même pas à croire, ou je ne sais pas comment l'expliquer, à pouvoir penser que ça pourra exister. Or, nous savons qu'un conflit nucléaire peut les provoquer, et cela dans les proportions qu'aucun pays, et encore moins le monde entier, n'a connu jusqu'ici. En effet, la poussière létifère, elle empêchera toute croissance, plus de légumes, plus de fruits, plus de salades, plus rien du tout. Les substances radioactives, les moyens de combat biologiques et chimiques engendreront d'affreuses maladies chez les êtres humains. Oui, l'humanité passera par d'horribles tourments et elle connaîtra de terribles angoisses. Notez Saint-Luc, chapitre 21, verset 26. Et personne n'échappera à la souffrance, pas même ceux des croyants qui, dans l'espoir de se soustraire aux tribulations, dans ce faux espoir, ne suivront le Seigneur que en apparence, ou peut-être un peu éloigné. Au contraire, parce qu'ils chercheront à fuir les persécutions et le martyre par le saint nom de Jésus-Christ, ils passeront, hélas pour eux, par de plus grands maux encore, par de plus grandes souffrances encore, car ils devront subir sans celui, avec un grand C, sans celui qui aurait été leur consolateur et leur paix, les terribles jugements de Dieu qui fondront sur la terre toute entière. Et pour ceux, par contre, qui seront persécutés pour être demeurés fidèles au Seigneur, la souffrance perdra son aiguillon et son horreur. Car celui qui, au nom de Jésus-Christ, accepte de renoncer à quelque chose, de supporter des maux, petits ou grands, à la promesse, il reçoit la promesse, vous recevez la promesse, que vous recevrez déjà ici-bas, avez-vous entendu, déjà ici-bas, le centuple de ce qu'il aura, que vous aurez abandonné, et qu'il héritera, que vous hériterez tous la vie éternelle. Jésus-Christ tiendra cette promesse lorsque, à cause de son saint nom, nous devrons passer par de plus grandes afflictions, par la haine, les persécutions, voire même le martyre. Il nous fera expérimenter des miracles de protection. Son réconfort, son secours et ses consolations, et notre cœur même, au sein de la douleur, sera plein de reconnaissance et de joie en face d'un tel amour. Oh oui! Du reste, il y en a qui pensent que les anges n'existent pas, mais dans cette série, Dieu voulant, avec l'aide de l'Esprit-Saint, je vous parlerai de certains qui ont été secourus par des anges. Et oui, et je vous démontrerai aussi que le ciel existe bel et bien. Je crois que j'ai déjà fait des séries sur ces thèmes. Vous pouvez consulter, je crois que c'est www.bibleexplique.ch, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas moi qui les mets sur le site internet, c'est la pasteur Sabina Reichenbach. Donc, moi je fais que le travail, je suis la voix qui essaye de vous transmettre les vérités fondamentales des Saintes Écritures. C'est tout ce que je suis. Oui, la vie de Dieu, Jésus-Christ en nous, en toi, par son Saint-Esprit, cela est une chose bien plus précieuse que cette vie humaine qui, dans les derniers temps, comportera tellement d'horreur et de tribulation. Cette vie de Dieu, qui est paix et joie, s'épanouit pleinement chez les siens au milieu des persécutions, même s'ils doivent subir le martyre pour Christ. Nous savons combien cette vie divine, ce feu de l'amour pour Jésus-Christ et cette joie remplissaient les martyrs de l'Église primitive et leur conféraient la victoire. Vous pouvez retrouver, vous qui avez des engins ultra sophistiqués d'actuels, de la science actuelle, moi je ne les ai pas, mais donc dans l'Antiquité, dans les amphithéâtres romains, etc., on jetait des chrétiens, hommes et femmes, et y compris les enfants, au milieu des lions affamés, rugissants, Il y avait peut-être même des tigres, paraît-il, et des taureaux terribles. Ça devait être horrible, mais ce qui nous attend, das Schlimmste kommt noch, le pire est à venir. Chers amis, avons-nous reçu la vie divine? L'esprit de haine, de ressassement, de non-pardon, de violence qui peut venir que des émissaires de Satan, les démons. Tout cela gagne du terrain et avance à pas de géant. Est-ce que nous, nous préparons, chers amis, de notre côté, à résister victorieusement aux assauts si rusés de Satan, qui attise de toutes sortes de manières la haine contre Christ? Même si l'insurrection a lieu sous le signe de la théologie, même si l'ennemi s'en tient encore à la terminologie chrétienne pour mieux dissimuler son véritable but, nous devons rester vigilants et inébranlables. Comment maîtriser la peur et les soucis dans la vie de tous les jours? Voilà une question sérieuse. Qui pourra subsister? Seul celui et celle qui ne succombera pas à la peur, parce que elle aura appris à avoir confiance en Dieu qui est au-dessus de toutes les horreurs, de la haine et de la persécution, des guerres et de toutes les détresses. Ça vaudrait la peine de répéter. Qui pourra subsister à tout cela? Eh bien, que ceux et celles, je rajoute toujours le féminin, parce que le féminin n'est souvent pas écrit dans les Saintes Écritures, mais parce que tout simplement, en ce temps-là, ça se comprenait d'office, que quand Dieu parle de l'homme, il est y compris. Cela comprend également la sœur, la femme. Donc des fois j'ajoute de mon cru. Donc je répète, sa main est toute puissante, elle peut nous garder de ceux qui cherchent à nous nuire, à nous détruire. Et les Saintes Écritures, à propos des derniers temps, parlent toujours de protection et de délivrance au milieu du danger, alors même que certains sont appelés à donner leur vie, en qualité de martyr pour Jésus-Christ. Mais dans ce cas encore, au plus fort des tribulations, ils sentiront l'amour de Dieu et ils en seront consolés. Alléluia. De plus, Dieu détournera des siens la maladie et les épidémies, selon sa promesse. Les hommes et les femmes qui porteront son sceau sur leur front ne souffriront aucun mal. Notez, dit Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 9, verset 4, s'il vous plaît. Apocalypse 9, chapitre 9, verset 4. La main de ce Dieu sauvera son enfant, elle le sauvera dans l'angoisse. Et il ou elle éprouvera cette surprotection qui ne vient pas de ce monde, mais de celui qui peut nous délivrer de toute crainte. Souvenons-nous que Jésus-Christ, il a vaincu pour nous la peur. Elle doit donc, fuir, elle doit s'enlever quand nous invoquons son saint nom. Elle doit reculer. Ne nous a-t-il pas dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Johannes, Saint Jean, chapitre 14, verset 27. Que de richesses il tient en réserve pour les siens. Heureux l'homme, heureuse, heureuse la femme, j'ajoute, qui les ayant découvertes, lui fait confiance. Même lui faire confiance dans les petits problèmes, dans les petits problèmes de la vie quotidienne. Heureux donc celui, et j'ajoute heureuse celle, qui vit dans la dépendance du Père Céleste et qui accepte d'être châtié par lui quand c'est nécessaire. Dans mon cas, c'était souvent nécessaire. Hélas, je dois l'avouer. Et que il ou elle puisse s'humilier sous sa main puissante et se soumettre à sa volonté. Heureux donc celui et celle qui aujourd'hui vit selon ses commandements, croyons à la force de Jésus qui nous aide à vaincre dans nos luttes contre le péché, à être victorieux. Dans les tribulations à venir, cette consécration, cette confiance et cette obéissance envers Dieu le Père porteront du fruit. Rien ne sera plus précieux, ne sera davantage précieux que la consolation, la paix et le sentiment de sécurité que le Seigneur nous donnera, tandis que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Saint Luc, chapitre 21, verset 26. Cette paix confessée, voyez-vous, je dis bien cette paix divine, elle sera le partage de tous ceux, oui, de vous et moi, qui après avoir reconnu, après avoir confessé nos fautes, les miennes, les vôtres, à Dieu le Père, et éventuellement, dans certains cas aux hommes, auront reçu, qu'est-ce qu'ils auront reçu? Auront reçu son pardon en et par Jésus-Christ. Ils seront donc prêts, quand se déchaîneront soudain les révolutions, les persécutions et la guerre. Dans le délai qui nous est accordé, le Seigneur nous appelle à nous attacher de jour en plus, de jour en jour, davantage à celui qui vous a sauvé, davantage. Puissions-nous être prêts, s'il nous le demande, à quitter notre père, notre mère, notre maison et nos terres, à cause de son saint nom. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 29. N'hésitons pas à sacrifier dès maintenant ce qui nous est le plus cher, surtout s'il nous y conduit, et en véritable disciple de Jésus-Christ, à renoncer tout simplement au bien auquel nous sommes attachés. Nous devons perdre notre vie avec ce qui en fait partie. Et nous, va nous la rendre précieuse. Je répète, nous devons perdre notre vie avec ce qui en fait partie et nous la rend précieuse. Donc avec tout ça, nous devons être prêts de laisser derrière nous, le laisser, tout cela. Sans cela, comment pourrons-nous tout laisser pour Jésus, situation, les gains, peut-être même un être aimé, quand l'antéchristianisme progressera de plus en plus? Comment serons-nous capables de nous opposer à des êtres chers s'ils viennent à lutter contre Jésus-Christ, comment renoncerons-nous à notre liberté, à notre bonheur, peut-être également à notre honneur, et, en plus, s'il le faut, à notre vie même. Celui qui aujourd'hui n'a pas appris à faire confiance au Père Céleste dans ses petits soucis sera véritablement désespéré à l'heure de la catastrophe parce qu'il ou elle ne parviendra pas à s'abandonner à lui. Celui qui dès maintenant ne suit pas Jésus dans la foi sur le chemin du dépouillement, de la pauvreté, de l'humiliation, de l'obéissance et de la croix, ne pourra pas subitement faire au nom du Christ, en claquant des doigts, le sacrifice ultime et tout laisser pour lui. Celui qui aura refusé continuellement de répondre à l'appel de Jésus sera aveuglé et ne reconnaîtra peut-être même pas qu'il s'agit de le confesser, de reconnaître que nous sommes perdus, de demander pardon. Il ne remarquera pas où commence le reniement. Il ne remarquera pas cela s'il n'a pas dit ouvertement non, non, non à toute théologie athée et au courant révolutionnaire prêché aujourd'hui dans certains temples. Les saintes Écritures contiennent ces mots terribles. Écoutez bien. Trop tard. Es ist zu spät. Trop tard. Trop tard signifie qu'il n'est plus possible de réparer. Plus possible. There is no any possibility anymore. Never. Et c'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si aujourd'hui tu entends dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, une voix qui te démontre que tu es perdu, n'endurcis surtout pas ton cœur. Notez Hébreux chapitre 4 verset 7. Il en va de votre bonheur éternel. L'insensé qui ne remplit pas sa lampe, Saint Matthieu, chapitre 25, verset 1, notez le verset 1, jusqu'au verset 13 de Matthäus de Saint Matthieu, chapitre 25. L'insensé qui ne remplit pas sa lampe, pour se préparer au temps à venir, trouvera la porte de secours fermée. Zu spät, trop tard, you are too late. Et ce qui importe infiniment plus, il trouvera close la porte qui mène à la gloire céleste aux noces de l'agneau. La décision prise, elle aura ses répercussions dans l'éternité. Et c'est cela qui compte, car même les temps d'horreur d'ici-bas, heureusement pour nous, elles seront limitées. Mais l'éternité, elle ne sera pas limitée. Puisqu'elle n'a tout simplement pas de fin. Les mots de cette vie sont courts. J'ai 88 ans et ma sainte épouse a offert sa vie pour moi. Trop long à vous expliquer, ça demanderait plusieurs CD. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Que croyez-vous ? Je leur dois quelque chose, bien que j'ai été pardonné. C'est simplement une question de conscience. Je dois vraiment tout faire pour honorer ceux qui m'ont racheté, ceux qui sont morts pour moi, tels que ma sainte épouse et mon sauveur bien-aimé. Oui, l'éternité est une réalité, puisqu'elle n'a pas de fin. Les mots de cette vie sont courts, je l'ai déjà dit, et j'ai compris, et certains d'entre vous sûrement aussi, que les années passent à une vitesse incroyable. J'ai 88 ans, mais il semble que il y a des choses qui se sont passées hier qui n'étaient pas trop jolies. Et dont j'ai compris que j'avais besoin de me repentir, que j'avais besoin d'être racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, d'être lavé par son sang précieux. Oui, tout cela ne peut pas être comparé à ceux qui nous attendent dans le royaume des ténèbres, comme le dit l'Évangile, si nous avons renié Jésus-Christ ou si nous avons vécu simplement en des espèces de pieux hypocrites. Comment faut-il dire ça? Autrefois on disait des momiers, mais ça a été mal utilisé, très mal utilisé. Or, quand sommes-nous hypocrites? Quand? Comme par exemple, nous prétendons être réconciliés avec Dieu et que nous continuons à vivre irréconciliés avec une autre personne, ou encore quand nous ne vivons pas ce que nous déclarons et que nous prêchons comme les pharisiens à qui Jésus-Christ disait « Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Saint Matthieu chapitre 23 verset 33. Bien sûr que nous savons qu'il y a des circonstances que le Seigneur seul connaît, où parfois, par nécessité, la fin de notre vie n'a pas été voulue de plein cœur. Mais le Seigneur le sait. Savez-vous que il y a eu des témoignages que je dois avoir à quelque part dans un tiroir, mais je ne sais même plus lequel, des témoignages où des saintes épouses, des femmes merveilleuses, ont prié pour leur mari irlandais. Par hasard, c'était pour un Irlandais, ça aurait pu être pour un moscovite, hein, je crois. Et sur le lit de mort, il se repentit, il a pleuré, il a demandé à sa femme pardon et au Seigneur. J'ai eu un tas de témoignages de ce genre qui sont presque incroyables à accepter comme étant vrai, mais dont les larmes de ceux qui les ont témoignés ont donné par les larmes le sceau de la vérité. Oui, il y a des choses qui nous échappent. Ne critiquons pas à l'avance. Ne critiquons pas trop à l'avance. Donc, chers amis, comment échapperez-vous, et je dis nous, au châtiment de la géhenne? Notons Saint Matthieu, chapitre 23, verset 33. L'antichristianisme progresse, et c'est vrai. Mais les armées célestes, elles aussi, elles se préparent activement. De même, l'heure de la révélation de Jésus-Christ approche. Les progrès fulgurants de l'antichristianisme, tout cela nous le confirme, que le roi vient bientôt. On prie pour cela. On prie, Seigneur, que ton règne vienne bientôt. Prends-toi le commandement de tout l'univers. Son retour est imminent. Alors il se révélera au monde entier comme étant le Seigneur. Il régnera sur tous les hommes, et j'ajoute les femmes bien sûr, qui tous fléchiront les genoux devant lui. Comme en un léger mouvement de vague venant se briser sur le rivage, ce message pénètre dans le cœur de ceux qui aiment Jésus-Christ. Oui, le roi vient. Ce chant d'allégresse retentit chez tous ceux qui lui ont véritablement gardé leur premier amour. Le Messie vient. Tous ceux qui lui sont demeurés fidèles, fidèles, pas comme Judas, fidèle au milieu des tentations et au milieu des souffrances des temps de la faim. Ceux qui l'aiment, ils attendent sa venue d'un cœur ardent. Ils poursuivent leur marche sans défaillance jusqu'au jour de sa révélation. Toute leur vie est une préparation en vue de ce jour-là. Ils ne veulent pas rester dehors comme les vierges folles. Et c'est pourquoi, nous le répétons, l'appel de Jésus-Christ retentit aujourd'hui pour nous. Préparez-vous tous, vous qui venez d'entendre ce message. Jésus-Christ vous dit, je viens bientôt, je viens bientôt. Celui qui aime Jésus-Christ répond avec l'Église, l'Église affligée des derniers temps dans lesquels nous vivons. Toute l'Église de Christ, elle dit, viens, Seigneur Jésus, viens, notre Messie, viens bientôt. Amen. Chers amis, je voudrais, avant de prier, vous communiquer quelque chose sous une forme de prophétie. C'est quelque chose qu'on reçoit dans notre esprit. Quand nous sommes en train de méditer d'une façon assidue avec toute l'attention, avec tout l'amour que nous devons au Seigneur, alors il nous transmet des fois des choses et qui ne sont pas pour avaler comme une nourriture personnelle égoïste, mais qui sont pour transmettre ce n'est pas pour une personne, c'est pour tout le corps de Christ. Chers amis, dans les jours futurs, cette partie de l'Église survivra et prévaudra. Les vainqueurs étant de ceux qui auront appris à marcher sur les eaux. Ils auront appris à marcher sur les eaux dans la seule foi en lui, en Jésus-Christ. Il y aura des tempêtes telles qu'il sera impossible d'utiliser les moyens ordinaires tels que le bateau, car ces tempêtes seront si puissantes que les bateaux sombreront. Il y a déjà des bateaux qui sombrent, mais ou des innocents qui essayent de fuir les atrocités pour se rendre dans d'autres endroits qu'ils imaginent moins atroces qu'ils imaginent, mais sous un autre aspect sont peut-être pires. Les voies de l'organisation religieuse traditionnelle deviendront mondaines et elles ne seront plus appropriées aux besoins parce que trop rigides et inflexibles pour résister aux vents et aux vagues. Et ceux qui auront mis leur confiance en elles pour leur sécurité seront comme ceux qui se trouvent sur un bateau surchargé est prêt à couler. On en a des exemples maintenant de ceux qui essayent de fuir et qui croient qu'ils vont, en quelque sorte, dans des terres où coule le lait et le miel. Or, grosse erreur, hélas. En ces jours-là, ceux qui auront appris à marcher sur les eaux spirituellement parlant iront en toute sécurité. N'enfermez pas, est-il dit, n'enfermez pas le peuple de Dieu dans des structures rigides et formelles, car c'est les mettre dans un bateau qui semble convenable et confortable dans les eaux calmes, mais il deviendra par la suite un lieu de mort pour tous ceux dont la seule expérience aura été d'y monter pour uniquement profiter de la croisière. L'ossature de l'Église divine n'est pas comme celle d'un bateau, d'un ensemble monolithique, d'une structure créée par l'homme. Elle doit être le corps de Christ. Elle doit être une chose complètement mobile et souple, capable de répondre et de s'adapter aux besoins du moment. Un corps survivra, mais toute structure créée par la sagesse et par l'effort des hommes, se révélera être comme un bateau qui sombrera à l'heure des problèmes et des pressions. Ne donnez pas au peuple divin outrance d'organisation, mais enseignez-lui les voies de Dieu. Apprenez-lui à écouter la voix de son Esprit Saint, à agir spontanément en obéissance à ses incitations. Apprenez-lui à ne pas compter sur les hommes ou sur toute forme de structure organisée, mais enseignez-lui que chacun doit avoir confiance en Jésus-Christ exclusivement. Lui qui est la tête du corps, qui seul a la sagesse pour guider son peuple à travers les eaux tourmentées. Les jours viennent. où tous les détails de votre sécurité qui dépendent des voies humaines et des structures du monde vous seront enlevés. Peu importe combien vous aurez travaillé pour la structure ou la construction, la construction de votre maison, et combien son peuple lui aura demandé de la bénir, de les bénir, tout ça sera comme si vous aviez placé votre trésor dans une banque, oui, dans une banque, écoutez bien, qui vous ferme soudainement ses portes et qui ne vous en permettra plus jamais l'accès. Attention. Enseignez donc au peuple de Jésus-Christ et de Dieu le Père, enseignez donc à ce peuple la manière de marcher sur les eaux. Enseignez-lui, tandis que les eaux sont encore calmes, enseignez-lui à poser sur Jésus-Christ seul les regards avec toute l'intensité du cœur, de l'âme et de l'esprit, et à lui faire confiance, et qu'il soit, donc, qui que ce soit, je dis bien, peut s'approcher de lui et lui demander « Absous-moi, pardonne-moi, régénère-moi, je t'en supplie, je veux être ton serviteur, je veux être ton enfant, je veux être, pourquoi pas, ton esclave, mais pas compris dans le sens que ça s'est passé pour ceux qui ont souffert de cela, non, pour être tout entier à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Amen. Et chers amis, nous allons maintenant, priez. Je vous ai dit, je crois, que la prière de notre Père, elle peut être priée de diverses façons. Vous pouvez la prier comme vous la recevez dans votre cœur, si vous n'avez pas l'habitude de faire d'autres prières. Mais même si vous faites cette prière que le Seigneur a donnée dans son évangile, eh bien, croyez-moi, il vous répondra, elle suffira amplement. Ce ne sont pas les paroles formidables, élaborées avec une certaine connaissance, que voudrais-je dire, supérieur, c'est pas ça. Alors prions tout simplement ensemble. Notre Père qui est aux cieux, vraiment, c'est toi, ô mon Dieu, qui es notre Père sans autre. Je désire aujourd'hui être avec toi. Ton Saint-Nom soit sanctifié. Ô mon Dieu, que ton Saint-Nom est pauvrement sanctifié aujourd'hui. Ton règne vienne aujourd'hui même. J'espère entrer en celui-ci. Ta volonté soit faite en la terre comme au ciel. Je suis ici, mon Père, Yahvé l'Éternel, afin que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que Jésus-Christ, le vrai pain, soit aujourd'hui ma nourriture. tu nous pardonnes nos péchés, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ô mes amis, le bon cœur est de tout bon cœur. Je répète, de tout bon cœur. Je pardonne à tous, hommes et femmes, à tous, tant amis que ennemis. Et ne nous induis pas au point en tentation, mais nous délivre du mal. Ô mon Seigneur, sans aucun doute, je sais que tu me délivreras, car j'ai en toi fixé toute mon espérance. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Je devrais évidemment ajouter, car ça peut être mal compris, que Dieu vous aime, qu'il aime tout le monde, comme une chanson allemande qui dit « Wir gehen alle, alle in den Himmel ». Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu le Père et Jésus-Christ vous aiment, vous qui avez un jour ou l'autre dans votre vie, ou peut-être maintenant, aujourd'hui, accepté sa main tendue en reconnaissant que vous êtes perdu et que vous avez besoin du salut pour être sauvé pour l'éternité, et que le Seigneur Jésus n'est pas mort à la croix pour rien, mais qu'il a versé son sang précieux pour tous ceux qui l'ont accepté et qui vont encore l'accepter, car on prie pour cela, sincèrement, intensément, dans des nuits de prière, que des âmes soient encore sauvées. Donc Dieu, le Père et Jésus-Christ aiment tous ceux qui lui appartiennent, qui sont ses enfants. Et il vous aime beaucoup, beaucoup plus que moi je ne pourrai jamais vous aimer. Car il est Dieu, il est trois fois saint, il est la sainteté absolue. Voyez-vous ? Soyez donc bénis. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite, au revoir.